Bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir à Cécile Coulon, et bienvenue à Bordeaux.
Merci, bonsoir.
Par ce temps très chaleureux. avant toute chose, je vais quand même commencer par dire que nous sommes absolument ravis de vous avoir ici parmi nous, que nous sommes presque battus en tant que libraires de chez Mola pour avoir le droit d'animer cette conférence et de vous rencontrer, vraiment de pouvoir vous poser toutes ces questions, parce que votre roman, publié aux éditions Viviane Ami, qui s'appelle « Le roi n'a pas sommeil », que nous avons ici, a vraiment fait des émules chez nous. Donc vraiment, c'est un grand honneur de vous avoir parmi nous. Donc voilà, nous vous mettons à l'aise. Alors, une petite présentation. Je ne vais pas commencer par donner votre âge. Évidemment, ça ne se fait pas pour les femmes. Par contre, je vais préciser que vous êtes née, on va donner quelques indications, l'année où Gorbatchev a eu le prix Nobel de la paix. C'était l'année où le prix Nobel de littérature a été décerné à Octavio Paz, pour ceux qui ont une bonne mémoire ou bonne culture littéraire. Attention, là, je vois qu'ils réfléchissent. Vous êtes née aussi l'année où Frédéric Becbédé a écrit son premier roman, c'est quand même important, on va le signaler. En cinéma, c'était l'année où le film Nikita et le film Édouard aux mains d'argent sont sortis. Par exemple, 2-3 repères. En dépit des apparences, ce roman n'est pas votre premier roman, loin de là. Vous n'en êtes plus à votre coup d'essai. C'est donc votre troisième roman. En 2010, vous aviez fait paraître « Méfiez-vous des enfants sages », également aux éditions Viviane Ami. Et avant cela, vous avez écrit un recueil de nouvelles et un autre roman aux éditions Revoir, c'est ça
C'est ça, oui.
C'est un éditeur
régional à Clermont-Ferrand.
Ouais, donc ce n'est pas parvenu jusqu'à nous, mais, nous le lirons avec plaisir. Donc, avant toute chose aussi... Et je vais vous poser une question un peu surprenante, mais est-ce que vous êtes consciente que depuis que vous avez écrit ce roman qui a fait vraiment beaucoup parler de vous, au point que vous êtes passée sur France Inter, vous avez été l'invité de François Bunel sur le plateau de la Grande Librairie, vous avez contribué à jeter un bon coup de projecteur sur les jeunes écrivains, les jeunes talents. Est-ce que vous en êtes consciente, ça, que vous avez vraiment...
Très honnêtement, jusqu'à un certain moment, je n'en étais absolument pas consciente. Ce qui m'a fait un peu changer de perception, c'est que dans les articles qui sont parus sur le livre et dans les interviews qui ont été faites à la radio ou à la télé, généralement, ça se terminait là-dessus. Il y a de nouveaux auteurs en France, de jeunes auteurs qu'il faut suivre ou pas. Et donc là, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'effectivement, ça avait mis un coup de projecteur sur peut-être une nouvelle génération de jeunes auteurs. Après, je pense qu'il y a quelque chose d'autre qu'il faut souligner, c'est que contrairement à une certaine tradition française où à chaque rentrée littéraire, il y a un Benjamin, un bébé écrivain, comme on dit maintenant, c'est assez horrible cette expression, mais c'est comme ça qu'on dit, où dans les livres de très jeunes auteurs parlent de leur mal-être, parlent beaucoup d'eux, publient leurs journaux intimes ou le détail de leur existence, il y a de plus en plus de jeunes auteurs qui essayent de se délivrer de ça, justement, et qui vont placer leurs histoires dans d'autres pays, qui essayent vraiment de se concentrer sur des projets littéraires assez forts, qui essayent de raconter une histoire qui n'est pas la leur. Et peut-être que c'est aussi là-dessus que ça a mis un coup de projecteur.
Tout à fait. Vous pensez à un auteur en particulier que vous connaissez ?
Il y a Thibaut Blondel qui a écrit Maelstrom Exotique, par exemple, chez Léo Cher. Il y a eu Arthur Lostalou chez Lattès qui a publié « Là où commence le silence ». Voilà, des auteurs comme ça qui essayent de renouveler un peu la littérature française et qui essayent de montrer qu'on peut être jeune et écrire une histoire sans parler de soi. Et ouais. Ça, c'est assez important, en fait, à souligner.
Éviter l'écueil de l'autofiction, qui est quand même une belle tentation quand on commence une carrière d'écrivain. On peut ajouter à la liste que vous venez de donner, par exemple, Oscar Cope-Brace, qui a écrit un roman récemment aux éditions Finitude, donc ça s'appelle Zénith Hôtel. Donc là aussi, étant donné le sujet, il s'agit d'une prostituée, on peut se douter que ce n'est pas exactement autobiographique. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, donc le roi n'a pas sommeil, donc on établit ça, ce n'est pas l'autofiction. Vous placez votre roman dans une temporalité et dans un lieu complètement différent. Nous ne sommes pas du tout en France. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, le résumé, pour ceux qui ne l'auront peut-être pas encore lu à l'heure actuelle ?
Donc, le roi n'a pas sommeil, c'est l'histoire d'une famille, la famille Hogan, qui a absolument tout réussi, sauf son fils. Et justement, ça va être l'histoire de ce fils qui a absolument tout pour réussir et qui va choisir de disparaître, en tout cas de s'effacer de ce projet familial. Et on va suivre, le roman va essayer de répondre à la question pourquoi ce fils n'a pas fait ce qui lui était destiné. Donc voilà, c'est l'histoire de Thomas, c'est essayer de comprendre comment quelqu'un choisit de ne plus exister aux yeux des gens qui l'ont connu, aux yeux des gens qui l'ont vu grandir. Donc comment, quand on a grandi dans un groupe très précis de personnes, que ce soit familial, que ce soit les amis, comment on choisit de s'extraire de ce groupe-là et donc de ne pas répondre aux attentes de ces mêmes personnes.
Et la façon dont vous racontez cette histoire, en fait, vous jouez un petit peu avec la temporalité. On ne commence pas au moment où naît ce jeune homme. On commence par une scène extrêmement forte. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots de cette scène très très visuelle, presque cinématographique ?
Oui, moi j'ai commencé le premier chapitre, en fait, c'est l'histoire de donc, Thomas qui est arrêté, qui est menotté. Et on ne sait pas pourquoi il est menotté, on sait juste qu'il s'est passé quelque chose d'horrible dans sa ville. Et juste après cette scène d'arrestation, on a la mère de Thomas qui devient complètement dingue, qui devient folle au milieu de la rue principale de leur ville. Donc c'est des chapitres extrêmement courts, mais extrêmement agressifs. Parce que finalement, le lecteur rentre immédiatement dans l'histoire. C'est une façon de ne pas laisser de moments de répit, en fait, au lecteur. Moi, j'ai voulu commencer mon roman avec une accroche assez forte et dire, voilà, il s'est passé quelque chose d'horrible. Et par la suite, je vais vous expliquer pourquoi cette chose est arrivée. Donc voilà, le premier chapitre, c'est ça. C'est de montrer qu'il y a eu un drame, mais de ne pas en révéler les détails pour que le lecteur ait envie d'aller chercher plus loin les explications.
Ouais. Vous appâtez le lecteur.
Voilà, c'est ça.
Donc vous parlez d'un style très sec, très bref, des chapitres très courts. C'est assez américain comme façon d'écrire, quand même. Donc ce sont des influences, je vois sourire, ce sont des influences que l'on devine. Mais bon, en même temps, c'est assez clair. Même dès la citation que vous avez choisi de mettre en exergue, donc qui est empruntée au roman Rue de la Sardine de Steinbeck, on sent qu'il y a, vous êtes vraiment sous influence américaine, donc plutôt de littérature américaine. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, ainsi que ce qui a motivé l'emplacement géographique que vous avez choisi ? Donc, pourquoi les États-Unis ? Est-ce que c'est juste une façon, une sorte d'outil pour éviter l'écueil de l'autofiction ? Ou est-ce qu'il y a quand même des raisons un petit peu plus profondes ?
Alors, en fait, il y a plusieurs raisons. La première chose que je veux souligner, c'est que dans ce roman, il n'y a absolument aucune indication spatiale. Donc, tout le monde a dit que c'était un roman qui se passait en Amérique. Comme le précédent. Mais le précédent était hyper référencé. C'était dès le départ, dans le précédent, on se disait, voilà, ça se passe à Chicago, ça se passe à San Francisco. C'était vraiment localisé. Dans celui-là, il n'y a aucun nom de ville, il n'y a aucun nom de région, il n'y a aucun nom de pays. Donc, ce qui est drôle, ça a été de voir comment tout le monde a dit que c'était un roman qui se passait en Amérique, alors que ça pourrait très bien se passer en Pologne, au Canada, en France, en Irlande.
Les noms que vous utilisez,
c'est
quand même.
Et en fait, c'est au niveau des noms que là, les gens ont dit, bon, ça peut être en Irlande, au Canada ou dans le Middle West. Donc,
c'était en Angleterre au départ.
Oui, mais voilà. Pensais, donc, mais... on peut choisir aussi. En fait, le lecteur là peut aussi choisir où ça se passe, parce que Moi, j'ai choisi, au départ, de ne pas mettre de référence spatiale et de ne pas mettre de référence temporelle. De dire, voilà, le précédent roman, on savait exactement à quelle date ça se passait et à quel endroit. Et dans celui-là, je voulais m'écarter de ça et dire, ce que je veux offrir au lecteur, c'est une histoire entre êtres humains, c'est l'explication des relations entre des gens qui vivent dans un microcosme et dans un lieu extrêmement resserré. C'était un huis clos, en fait, narratif. Et dans ce contexte-là, il me semblait difficile de placer des dates, de justifier par des lieux. Donc, au départ, c'était vraiment un souhait très, très important. Et après, dans un second temps, je voulais aussi prendre du recul par rapport à ma génération, par rapport à mon pays. Je n'avais pas forcément envie de parler des gens de mon âge en France. Et je me suis dit qu'en délocalisant aux États-Unis ou ailleurs, c'était aussi une façon pour moi de prendre du recul et de me mettre à l'écart, comme on disait tout à l'heure, d'une certaine littérature et d'une certaine tradition de l'autofiction. Donc il y a vraiment deux vecteurs différents, deux explications différentes, mais qui sont importantes pour moi parce que ça me permet aussi de mettre, moi, un écart entre ce que j'écris et ce que je suis. D'être assez claire avec ça, de me dire, voilà, mon texte, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma vie. Et j'ai pas envie de faire ça, en fait. Je n'ai pas envie de raconter ma vie, j'ai envie de raconter une histoire, et c'est extrêmement différent.
Oui, on vous le souhaite pas, parce que quand on voit comment c'est sombre... oui, donc c'est une façon de... Un petit peu comme Shakespeare qui choisissait d'utiliser, enfin, tous les écrivains qui ont écrit sur des îles, des utopies, etc. Enfin, c'est une façon de pouvoir expérimenter, en fait, de se distancier et de pouvoir comme construire une sorte de laboratoire, en fait.
Oui, totalement. Et puis pour moi, c'est aussi une façon de pouvoir déployer un imaginaire littéraire important, parce que quand on se cantonne à un lieu, à une date, à un contexte politique et social, ça ferme aussi des portes sur l'histoire. Alors que là, en disant voilà, je sais juste que je vais le placer à la campagne, parce que précédemment ça se passait en ville, ça me permettait de faire ce que je voulais, de raconter n'importe quelle histoire. Et ça, c'était important aussi.
Alors, vous êtes partie de quoi exactement pour écrire ce roman ? Est-ce que c'est un fait divers, comme aiment bien le faire les Américains ? Est-ce que...
Il y a eu plusieurs choses. D'une part, je me posais la question de qu'est-ce que c'est que la disparition ? C'est-à-dire, pourquoi, parfois, dans des groupes humains, quelqu'un choisit de disparaître ? Et je ne dis pas mourir, je dis disparaître, c'est-à-dire de ne plus exister aux yeux des gens qui le connaissaient. Et je me suis rendu compte que quand ça arrive, tous ceux qui étaient dans ce groupe inventent tout et n'importe quoi pour expliquer une disparition. C'est-à-dire, ça peut être quelqu'un qui, je sais pas, qui s'est fait enlever, qui a pété un câble, qui est mort, qui est dans la mafia ou n'importe quoi. Et jamais personne ne se dit que quelqu'un a le droit de partir de son plein gré. Que c'est pas parce qu'on est habitué à connaître des gens depuis des années qu'il nous est interdit d'aller chercher ailleurs ce qui nous manque. Et pour moi, ça, c'était important. Donc voilà, d'une part, je voulais expliquer ça. Je voulais expliquer comment on est en tant qu'individu face à un groupe. Ou dans un groupe. Comment, au départ, on est dans un groupe et qu'après, on se retrouve en confrontation avec ce groupe-là. Et après, dans un tout autre univers, j'ai envie de dire, j'avais envie de faire un roman rural, sans pour autant tomber dans le style terroir, qu'on connaît très bien en France. Et ça, ça m'intéressait beaucoup, parce que je trouve que depuis un certain nombre d'années, encore une fois, on parle beaucoup des romans urbains. Il y a toute une génération d'auteurs, que ce soit français ou étrangers, qui parlent énormément de la ville et qui en parlent très très bien. Et pour des gens comme moi qui sont nés à la campagne et qui adorent ça, il y avait une espèce de manque. J'avais envie de lire des romans qui se passaient dans la nature. Donc effectivement, j'étais très attirée par les romanciers américains qui parlent des grands espaces, c'est sûr. Mais j'avais à mon tour envie de raconter une histoire comme ça. Mais sans tomber dans un cliché franco-français. Donc ça, c'était un défi plus au niveau littéraire, en fait.
D'accord, mais donc l'histoire de ce Thomas Hogan et de sa famille n'est inspirée d'aucun fait divers, aucun
non,
fait
non, réel, non, aucun.
De même que votre roman précédent, c'est la même chose, ça sort tout droit de votre imagination.
Alors dans le roman précédent, il y avait un seul passage qui était inspiré d'un fait, on va dire, réel, d'un fait personnel, c'est... la narratrice, donc Loua, qui a deux parents dans un, oui, qui a forcément deux parents, dont un père scientifique, a une peur bleue d'une araignée que son père ramène en fait à la maison pour travailler dessus. Et ça, c'était partie d'une peur que moi j'ai, qui est la peur des araignées. Donc ça m'a aidé pour écrire tout le passage où elle fait vraiment une fixation sur cette araignée là. Et ça, j'ai pu utiliser certains sentiments que j'ai eus en ouvrant la lumière un matin, en ayant une énorme araignée dans le lavabo, c'est sûr. Mais voilà, c'est tout. Après, c'est vraiment de l'ordre du détail.
Alors, en parlant de détails, en parlant de phobie des animaux, vous n'auriez pas peur des serpents à tout hasard ?
Non, pas du tout.
Ah bon ?
Non. Donc là, non, mais vraiment, pour le roi n'a pas sommeil, il n'y a absolument rien qui pourrait se rattacher en fait à ma propre vie. Et ça encore, c'est un parti pris. Hein. J'aurais vraiment du mal, et je pense que c'est une question de pudeur, même si c'est maquillé derrière une autre histoire, j'aurais du mal à mettre des événements personnels dans un roman, parce que justement le mot roman dit déjà beaucoup de choses. Ça dit, on raconte la matière romanesque, c'est quelque chose qui, en tout cas personnellement, doit m'échapper, qui ne m'appartient pas. C'est une fois que je l'ai écrit, c'est au lecteur. C'est-à-dire que le récit, quoi qu'on en dise, une fois que l'auteur l'a fini et qu'il est publié, c'est au lecteur de se faire son idée, d'avoir sa façon de lire et d'avoir toute une marge d'imaginaire et de manœuvre sur un texte. Donc c'est pour ça que moi, je n'ai pas envie d'aller mettre des choses personnelles dans un roman et que je préfère au contraire aussi déployer mon imaginaire et montrer que je suis capable de raconter des histoires.
Alors cette marge d'interprétation à laquelle vous faites allusion est très intéressante. Donc quand on vous a vu sur le plateau de la Grande Librairie, où d'ailleurs vous avez surpris François Bunel, il avait commencé par vous dire ça, il vous a posé une question assez intéressante, et d'ailleurs je pensais vous poser la même, concernant le déterminisme en fait, qu'il pourrait y avoir, en fait, la façon dont on peut interpréter la vie, le destin de ce jeune homme. Est-ce qu'on n'a pas l'impression parfois que tout était couru d'avance et que c'était un enfant maudit et que quoi qu'il fasse, de toutes les façons, c'était joué d'avance ou pas ? Comment voyez-vous les choses quand vous l'avez écrit en fait ?
Alors, d'un côté, on peut dire, enfin, moi quand j'ai écrit, que j'ai relu mon texte, parce que quand on écrit un livre, on est aussi lecteur, on se relit derrière et on voit quels sont les indices qu'on peut donner au lecteur. Et effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui pourraient faire penser que dès le départ, on sait que de toute façon, ce gamin, ça va mal tourner pour lui. Néanmoins, personnellement, moi, j'ai pas écrit ça comme ça. C'est-à-dire que on peut croire ça au départ, mais quand on lit le livre et qu'on s'attache au personnage principal, on se rend compte que finalement, il est responsable totalement de ce qui lui arrive. C'est pas quelqu'un qui subit les choses, c'est quelqu'un qui les amène. Je cherche le verbe, en fait. Je trouve pas. Qui fait en sorte que ces choses lui arrivent, en fait. Voilà. C'est Thomas.
Maître de son destin.
Voilà, il est totalement maître de son destin. Il n'y a pas une malédiction qui pèse sur la famille, malgré les choses assez noires qui leur arrivent, mais qui arrivent à toutes les familles, en fait. Il est complètement responsable de ce qui lui arrive, et c'est lui qui choisit totalement de ne pas faire ce qu'il devrait faire pour être heureux, finalement. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que beaucoup de gens m'ont dit « Mais c'est marrant, votre roman, on pourrait croire à une tragédie grecque. Oui. » Comme, par exemple, Thomas pourrait être comparé à une sorte de Phèdre avec cette malédiction divine qui pèse sur lui. Et pas du tout. Moi, je pense que ce personnage, il a vraiment tout pour réussir. Il a une mère aimante, il a un endroit magnifique, il a une jolie femme qui lui court après et qui est droite dans ses bottes. Et malgré tout... Il n'arrive pas à composer avec ça. On dirait que c'est quelqu'un qui cherche forcément à aller dans l'excès ou dans la noirceur pour se délivrer justement de ce bien-être qu'on lui apporte. Et pour moi, c'était un défi, en fait, d'arriver à disséquer ça. Parce qu'on se dit... Enfin, moi, je me suis dit à un moment, il faut arrêter d'avoir pitié de ce personnage. Finalement, c'est lui qui construit... c'est lui qui va paver le chemin, qui va le mener à sa perte. Et ça, c'était important. Donc, c'est vrai qu'au début, on peut se dire il y a quelque chose de l'ordre de la malédiction. Et en fait, quand on regarde ce qui se passe, quels sont les faits, les événements du livre, On voit bien que ce personnage, il est maître de sa dérive, en fait.
Donc, sans rentrer dans le domaine de la superstition, en repensant par exemple à la scène très forte où il va prononcer ses premiers mots, donc « maman, maman », suite à un danger, parce que justement donc un serpent menace de lui entortiller la cheville. Sans rentrer là-dedans, sans parler forcément de malédiction, donc d'après vous, son patrimoine génétique n'y est pas pour grand-chose, le fait que son père soit quand même assez violent, assez enclin à boire. Bon, alors certes, il est très travailleur.
Oui, mais ça c'est parce que là aussi, encore, les parents, on peut les voir avec un double regard. Parce qu'effectivement, le père, on peut se dire, bon, il boit beaucoup et il est violent. Mais d'un autre côté, c'est quelqu'un qui fait tout pour que sa famille soit à l'abri du besoin, pour protéger sa femme, pour protéger son enfant. C'est quelqu'un qui est dans la protection totale. Donc il y a le côté, tout est relatif en fait, et la mère c'est pareil, la mère d'accord elle est aimante, d'accord elle est tendre et elle est présente, mais d'un autre côté elle voit que son fils à un moment ne va pas bien, mais elle ne fait rien, elle ne bouge pas, elle n'essaye pas de prendre les choses en main. Donc c'est pour ça, le père et la mère encore une fois, c'est des personnages ni tout noir ni tout blanc. Et c'est vrai que dans ce roman, moi j'ai essayé de montrer ça aussi dans le roman, que tout est relatif. On ne peut pas dire de quelqu'un qu'il soit bon ou mauvais. Il y a toujours, parfois, il y a énormément de beauté dans la noirceur. Parfois, il y a une certaine énergie du désespoir. Et d'un autre côté, ce qui est très lumineux peut paraître très ennuyé à certaines personnes. Donc, le personnage du père et de la mère sont le reflet de cette idée-là. Et après, moi, je ne peux pas parler de patrimoine génétique dans ce livre, parce que finalement, le côté violent de son père, on ne peut pas dire qu'il le développe énormément.
Ou alors non, mais il développe la scène quand même avec Donna.
Oui, mais qui n'est pas, qui est une scène très ponctuelle. Enfin.
Oui, mais qui va précipiter.
Qui va précipiter les choses. Mais c'est pas une violence permanente. C'est ça que je veux dire, voilà. Et pour ce qui est de la mère, justement, la tendresse de sa mère, il n'arrive pas à la donner à quelqu'un d'autre. Et donc voilà, on peut pas parler de patrimoine génétique. Il y a une éducation, il y a des choses qui arrivent, mais tout à côté de ça, encore une fois, il y a toute une part de responsabilité. De Thomas, autant quand il est enfant, adolescent ou adulte, c'est lui qui choisit de ne pas rentrer dans la boîte qu'on lui a construite.
Oui, d'ailleurs, c'est vraiment dommage parce qu'on sent que tout est tracé pour que ça se passe très très bien.
Oui.
Donc sa vie va basculer d'ailleurs au moment où en fait il commence à gagner pas mal d'argent donc en exploitant le bois sur son propre terrain, et où en fait tout lui sourit.
Oui. Mais c'était le but, et c'était aussi marrant de montrer comment finalement son père, qui s'est vraiment tué à la tâche, parce que c'est ça qui s'est passé. Son père travaille la semaine dans une scierie et le week-end à la caserne pour justement subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille, et dire voilà, j'aurais eu une existence assez terne et assez difficile pour que mon fils en ait une belle. Et là, on peut se dire, mais finalement, Thomas, il est malhonnête, ce garçon, parce qu'avec tout ce qu'on lui a donné, voilà, il est pas très reconnaissant, parce qu'avec tout ce qu'on lui a donné, mais d'une part, il refuse de le prendre, et en plus, il en fait des miettes, quoi. Ouais. Donc, il y a aussi ce point de vue-là qu'on peut avoir, et en fait, ce roman, il y a plusieurs entrées de lecture, il y a plusieurs façons de le lire, parce que tous ces personnages ont une histoire qui leur est propre, et cette histoire peut être lue dans un sens ou dans l'autre. En bien comme en mal. Et c'est ça qui est enfin, au moment de l'écriture, en tout cas, en tant qu'auteur, c'était vraiment un régal de poser des indices, de mettre des détails pour mettre la puce à l'oreille au lecteur, de dire, attention, vous pensez que le père, c'est un mec qui est pas bien, mais regardez la mère, à quel point elle est immobile, et à quel point elle refuse de bouger quand son fils ne va pas bien.
Et pour continuer à parler un petit peu du père, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce qui lui arrive à cet homme-là, qui est quand même pas très joyeux?
Alors, le père s'appelle William Hogan. Donc, quand il est petit, le père habite une maison très simple dans la ville. Et tous les jours, il passe devant une immense propriété qui est à la sortie de la petite ville où il habite. Et il adore cette maison. Et donc, au fil du temps, il se met à travailler très dur pour pouvoir l'acheter. Et quand ses parents meurent, il revend sa propre maison et enfin, il peut acheter cette propriété. En revanche, comme c'est énormément d'entretien et énormément d'argent à placer pour la garder en état et pour permettre à sa femme et à son fils de vivre décemment, il prend deux travaux, comme je disais tout à l'heure, et il n'est pas souvent chez lui, il est souvent alcoolisé et souvent... triste en fait, triste, voire méchant parfois. Et donc le père, un jour, quand son fils a 6 ou 7 ans, a un accident à la scierie, il se fait trancher une partie de la main par une scie. Et donc au départ, la blessure qui est censée ne pas être très importante va s'infecter et il va avoir donc la gangrène, ce père. Et il ne sera pas, il sera pas sauvé par le médecin de la ville qui s'appelle O'Brien. Donc voilà, l'histoire du père, c'est ça. C'est pas une histoire qui est franchement rigolote, mais il y a quelque chose du sacrifice chez lui en fait. C'est quelqu'un qui est toujours à la recherche de quelque chose et qui veut toujours prouver à ses proches qu'il est capable. D'être là pour 4 ou 5, de faire ce que les autres ne sont pas capables de faire, en fait. Donc, il y a un espèce de défi permanent chez lui, chez le père. Et c'est en ça qu'on peut trouver que c'est un beau personnage, en fait.
Oui, c'est intéressant. Ils ont tous une grande profondeur. Oui. Et donc, cet homme-là, donc, un problème à la main, ce qui fait quand même aussi penser donc à « Méfiez-vous des enfants sages », c'est marrant. Il y a entre ça et l'histoire du guitariste,
oui.
D'un village voisin qui meurt de façon aussi assez sympathique. en deux mots, on va dire que ses doigts donc vont finir dans la caisse d'une guitare. C'est assez sympa comme mort. Et dans Méfiez-vous des enfants sages, il y avait un personnage, James Freak,
ou c'est
John Freak, c'est
James.
James Freak, si je me souviens bien, qui avait tout pour se lancer dans une carrière de pianiste. Donc un musicien lui aussi, sauf qu'en fait il s'est fait bouffer un doigt par
un sanglier. Il s'est fait bouffer le doigt par un sanglier,
ouais.
pendant une balade en forêt. C'est des choses qui arrivent pour de vrai. Non mais ça arrive vraiment. Tout à l'heure je discutais avec mon attaché de presse et je lui explique que j'ai une amie qui s'est fait manger un doigt au zoo par un singe, donc vous savez il y a beaucoup de choses qui sont possibles, sauf que là c'est
un sanglier.
Non
c'est arrivé, obsession.
Mais non, mais parce que c'est en fait dans les romans c'est que les corps sont maltraités, il y a toujours des membres en moins,
ils sont amputés, mutilés,
c'est ça. Et en fait tout simplement parce que encore une fois, pour toucher le lecteur de façon efficace, dès qu'on touche au corps, ça fonctionne. Quand vous enlevez un œil, un doigt, une jambe, n'importe quoi à quelqu'un, tout de suite, ça va provoquer un sentiment soit de peur, soit de pitié ou de questionnement chez le lecteur. Donc, et même dans la vie, en fait. Quand on voit quelqu'un à qui il manque une main, on va forcément se poser la question comment il l'a perdue. C'est très rare que quelqu'un dise « je m'en fous, moi, je vois souvent des gens qui ont qu'une main, ça me dérange pas. Donc voilà, c'est encore une fois, ça, c'est pour montrer, il y a des choses qui nous amènent à nous poser des questions. Et plus c'est violent, plus on se pose des questions. C'est ça qui est dingue chez les gens, dans les livres ou en vrai, c'est qu'il faut qu'il y ait des pavés dans la mare pour qu'on prenne conscience de certains faits et qu'on aille découvrir ce qui se passe chez l'autre et essayer de comprendre ce qui peut se passer. Et les membres en moins, donc il y en a beaucoup dans les deux.
Oui,
parce que dans Méfiez-vous des enfants sages, ils ont tous un truc en moins. Il y a une femme qui a un œil en moins, donc qui s'amuse à jouer avec son œil de verre.
Oui, voilà.
Donc moi, j'utilise ça aussi pour montrer que le corps humain, c'est aussi un reflet. C'est un reflet d'une violence quotidienne ou pas, d'une violence ponctuelle ou pas. Et c'est ce qui reçoit en premier nos émotions les plus fortes. Donc voilà, c'est un outil de travail, le corps humain, dans les romans.
Oui, vous le malmenez bien. Puisqu'on en est au parallèle un petit peu entre, donc entre ces deux romans-là, il y a une évolution qui m'a frappée entre les deux. Alors déjà, j'ai l'impression que la musique s'est quand même pas mal estompée dans Le Roi n'a pas sommeil. Il y a quelques références à la musique country. Et que ça aurait été presque remplacé par, par les odeurs. Les odeurs sont omniprésentes.
Toujours, dans, surtout dans celui-là. Ouais. Alors, c'est vrai que dans Méfiez-vous des enfants sages, j'ai mis une playlist à la fin parce que je voulais que le lecteur ait une autre entrée, une autre façon d'entrer dans le récit. C'est-à-dire qu'en se disant, voilà, en mettant cette playlist, moi je disais, vous avez fini le roman, si vous écoutez ces morceaux, peut-être que vous comprendrez mieux ce qui s'y passe. Ça me permettait de placer un contexte particulier. Dans Le Roi n'a pas sommeil, il y a des références musicales, notamment les chansons que la mère chante à son fils quand il est petit, c'est de la country américaine. Et c'est vrai que Le Roi n'a pas sommeil est un roman qui va jouer sur les cinq sens, sur les odeurs, mais aussi sur le toucher. Il y a une certaine sensualité, encore une fois, on reparle des corps qui sont extrêmement importants, et aussi sur le visuel, enfin... Moi, pour moi, le mot, l'image et le son sont indissociables. C'est-à-dire, quand j'écris une scène, je l'ai en tête. J'écris de manière extrêmement cinématographique. Et j'ai envie que les gens, quand ils lisent, se disent « Tiens, j'arrive à me représenter ce qui se passe. » Donc, je donne beaucoup d'importance aux odeurs, aux couleurs, au comportement, en fait, au mouvement. Et ça m'aide à donner une cohérence à l'histoire, à dire voilà, ça se passe de telle façon, vous pouvez vous représenter et vous pouvez avoir le film dans votre tête.
Oui, enfin, les odeurs pour le cinéma, on n'y est pas encore. Mais...
non, mais quand je veux dire, c'est-à-dire, c'est une importance donnée à une atmosphère, si vous préférez.
Voilà. Ouais. Et non, c'est vrai que ça fonctionne très très bien. Donc, pour citer quelques phrases, parce qu'on ne va quand même pas se priver de ce plaisir. Donc il y a toujours des métaphores très surprenantes. Alors pour les odeurs, c'est assez marrant, j'en ai relevé quelques-unes. Donc, par exemple, des couvertures qui sentaient le sapin et le whisky frelaté, ça c'est l'une des premières. Les genoux de sa mère étaient chauds, il sentait l'herbe et la terre mouillée. Donc il y a toujours, c'est vrai que bon, ça sent pas mal l'alcool en même temps, ils boivent beaucoup d'alcool. Hein,
oui.
Bière, whisky, je suis sûre que si on faisait une recherche de mots dans votre livre, ces deux mots-là arriveraient parmi les premiers. Si
Oui, parce qu'en fait finalement les moments où les personnages se parlent, c'est toujours autour d'un verre. Mais ça c'est quelque chose qui arrive aussi souvent dans la réalité.
Donc on en parle
En fait, les moments clés... Alors, il y a très peu de dialogue dans ce roman, mais les moments où il y a une vraie confrontation entre deux personnages ou plusieurs en même temps, c'est l'alcool qui les réunit. Ça se passe toujours dans un bar ou sur une terrasse, au moment de l'apéro. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait que des liens se tissent. Et effectivement, c'est très présent.
Vraiment. Donc, on parle du style. J'aimerais savoir un petit peu comment vous écrivez, parce que vos métaphores et vos comparaisons, alors on sent vraiment que vous y attachez un soin tout particulier. Moi, ça m'a un petit peu fait penser aussi, alors dans la démarche peut-être de renouvellement de cette langue française qui a toujours les mêmes métaphores, toujours les mêmes comparaisons, au livre de Patrick Lapeyre, le dernier livre de Patrick Lapeyre, qui s'est un peu amusé aussi, alors peut-être pas autant que vous, et puis bon, c'était pas le même propos, mais quand même à nous faire... à nous montrer ce qu'on pouvait aussi écrire avec la langue française, et on n'était pas obligé de rester dans les sentiers battus. Et alors vous, mais avec vous, là, ça prend des proportions... gigantesque. On va en citer quelques-unes. Et après, donc, vous allez nous dire un peu comment vous écrivez, est-ce que ça vient tout de suite, est-ce que vous voulez travailler, est-ce que c'est quelque chose que vous faites extrêmement consciemment, tout ça. Donc vous allez nous en parler. Alors, une petite sélection, un best-of. par exemple, voilà, elle sentait bon, en parlant de la mère de Thomas, elle sentait bon, ses doigts glissaient sur lui à la manière des rondins de bois qui dévalent une cascade sans jamais se retourner. C'est assez beau. Tous parlaient avec l'accent de la région, qui engloutissait les voyelles et rendait les conversations aussi fluides qu'un filament de miel s'écoulant au-dessus d'une tartine de pain noir. C'est toujours très 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 imagé. Ou une autre encore, c'est joue avec Rosie plus vite qu'une peau de poulet pendue en plein soleil. Très explicite. Donc voilà, ce sont toujours des phrases, des métaphores, des comparaisons, des images choc presque. Donc,
En fait, j'aime beaucoup la littérature américaine pour une chose importante, c'est que j'ai l'impression que les Américains disent en un paragraphe ce que les Français disent en trois chapitres. Et je me suis rendu compte que si on voulait parler au lecteur et lui faire comprendre certaines choses, la métaphore, l'image ou la comparaison, c'est ce qui fonctionnait le mieux. Et moi, c'est un procédé que j'utilise énormément à l'oral, vraiment beaucoup, parce qu'il y a une efficacité, une brutalité et un humour qu'on ne peut pas retrouver avec une description, qu'on ne peut pas retrouver, enfin, en tout cas personnellement, que je ne peux pas retrouver avec une description ou avec un dialogue ou un discours ou un monologue intérieur. Je n'y arrive pas. Et c'est vrai que voilà, utiliser la métaphore et la comparaison, c'est une façon de parler peu pour en dire beaucoup. Et j'ai envie que mon écriture, ça soit ça, c'est dire beaucoup de choses en très peu de mots. Et donc, en utilisant des comparaisons qui parfois sont assez inattendues, qui jouent beaucoup sur les couleurs, sur des choses qui normalement ne sont pas du tout censées se rejoindre, sur des faits et des objets assez inattendus, ça crée déjà la surprise. Parce qu'on se dit, mais comment on peut, enfin, oh, bah tiens, j'y aurais pas pensé. Mais en plus, c'est vraiment un jeu, hein, essayer de trouver des comparaisons rigolotes. Moi, j'adore. Ça, c'est vraiment très drôle, très rigolo à faire. Et ça permet aussi de donner un certain rythme au texte. C'est-à-dire de mettre des touches d'humour et de coups de rapidité qui font que le texte ne s'essouffle pas et qu'il est assez surprenant pour le lecteur.
Oui, ça reste très efficace et ça, ça tient le lecteur, c'est sûr. Et votre titre, d'ailleurs, le roi n'a pas sommeil, lui aussi, est-ce que vous l'avez vraiment peaufiné, ce qui s'est imposé à vous? Qu'est-ce que ça veut dire, déjà?
Alors, le roi n'a pas sommeil, il s'est imposé très vite. En fait, c'est une référence, parce que moi, j'aime beaucoup la poésie française. Et encore une fois, pour en revenir à ce qu'on disait sur la comparaison et la métaphore, il y a aussi tout un aspect poétique du texte. Et j'aime la poésie française, notamment Jacques Prévert. Et quand j'étais petite, il y avait un film que mes parents nous montraient souvent. Ça s'appelait Le Roi et l'Oiseau, et de Paul Grimaud et Jacques Prévert. Et dans ce film, l'oiseau donc est couché, fait son nid au-dessus de la chambre du roi pour l'empêcher de dormir, et il chante toutes les nuits cette berceuse. Donc déjà, il y a un hommage à la poésie française. Et d'autre part, pour moi, ce titre est très beau. Et je trouve qu'il colle extrêmement bien à l'atmosphère à la fois tendue, mais assez mélancolique du texte. Donc il y avait un parallèle très fort sur l'aspect poétique de l'histoire et aussi pour la référence.
D'accord. Vous l'aviez dès le début ou...
Ouais. Moi, je peux pas écrire un texte si j'ai pas mon titre en fait en premier.
Ah oui.
Voilà. C'est commencer la feuille blanche et dire voilà, il était une fois. Non, il faut d'abord que j'ai mon titre et après ça vient tout seul. Donc le titre est extrêmement important. Et puis je pense, en tout cas, en tant que lectrice, moi, quand je vais dans une librairie, quand j'aime un titre, je suis conquise à 60%. Un très bon titre dit énormément de choses sur l'histoire et sur le texte qui va suivre.
Oui, c'est vrai que le vôtre, en plus, on le retient bien. Et le précédent aussi, Méfiez-vous des enfants sages, avec même les titres des sous-parties.
Ouais.
C'est assez... Assez intriguant, en fait.
Alors, même si vous êtes des enfants sages, au départ, le titre s'appelait Bye Bye Loa. Et en fait, j'ai changé de titre quand on a fait des recorrections, parce que je trouvais qu'il n'était pas assez percutant et qu'il n'en disait pas assez long sur l'histoire. Et puis après, oui, je me suis amusée aussi dans le texte, qui est divisé en trois parties, à mettre des titres assez inattendus. Encore une fois, c'est pour créer la surprise, un certain suspense, et aussi pour faire rire le lecteur, parce que la surprise ne va jamais... sans le rire, pour moi c'est important. Un peu d'humour, qu'il soit noir ou pas, hein. Ça fait toujours du bien dans un roman, et quel que soit le roman d'ailleurs.
Est-ce que vous connaissez l'écrivain catalan, auteur de nouvellistes principalement, Sergi Pamiès?
Non, pas du tout.
Il aime beaucoup s'amuser avec son lecteur de façon très diverse et variée, et ça commence souvent avec le titre. Donc il pose des pièges, il fait un petit peu des farces à l'attention de son lecteur. Et par exemple, il a écrit un recueil de nouvelles qui s'intitule Le Grand Roman de Barcelone. Et donc à chaque fois, les gens se disent ah, c'est un roman? Non, pas du tout, c'est un recueil de nouvelles. Et en plus, vous savez quoi? Ça ne se passe pas à Barcelone. Mais c'est normal.
Ouais, mais ça, c'est assez rigolo. Moi, je trouve ça, c'est toujours très bien de montrer qu'un lecteur, il est actif. et qu'on peut s'amuser avec lui. Qui, en fait, la littérature, c'est une discussion entre un lecteur et, l'auteur. Enfin, une discussion complètement différée, parce qu'il y a le moment où on écrit et le moment où c'est lu. Mais c'est toujours très agréable, d'une part, d'avoir les retours des lecteurs après, et d'autre part, de se dire, au moment de l'écriture, voilà, je vais mettre ça comme indice, je vais mettre ça comme petite blague. Voilà, il y a quand même un échange qui peut paraître assez étrange quand on dit comme ça, mais la littérature, ça ne se fait pas tout seul, que ce soit du côté de l'auteur ou du lecteur. Il y a une communion, je ne sais pas, de pensée, de passion pour les mots entre un écrivain et son public, et c'est ça qui est important. Et donc, en jouant avec le titre, voilà, c'est une façon de dire, mon lecteur, je pense, il n'est pas passif quand il lit mon livre, et je vais m'amuser aussi avec lui, quoi.
Alors vous dites à juste titre, donc un livre ne se fait pas tout seul, l'auteur n'est pas tout seul. Alors, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur vos propres influences, donc en amont, si ça vous dit?
Influence littéraire ou influence...
D'une façon générale, alors littéraire tout particulièrement, évidemment, mais même le reste...
Alors en littérature, moi, donc, ce que je disais, j'aime beaucoup la littérature américaine. Mais j'adore aussi la littérature, la poésie française. Donc j'essaye, d'allier ces deux...
Des auteurs en particulier ?
En poésie française ?
En tout, en littérature américaine.
En poésie française... en littérature américaine, il y a Steinbeck, il y a Tennessee Williams, il y a Stephen King, il y a Chuck Palahniuk, très récemment, Justin Torres, Stewart Onan, des gens comme ça, Russell Banks. Après, en français, j'aime beaucoup François Sagan, par exemple. Pas Bonjour Tristesse, que je trouve très kitsch maintenant, mais il y a de très très beaux romans qu'elle a écrits ensuite et qui sont à lire vraiment, et son journal notamment. Il y a en poésie, il y a Jacques Prévert, il y a Cadou, il y a Kerol, Guy Evic. En poésie américaine, il y a Bukowski qui a quand même fait de très beaux textes, même si j'aime pas du tout ses romans. Il y a Philippe Larkin. Qui c'est que je pourrais citer ? Il y a un roman, des textes français que j'aime beaucoup, c'est Tropisme de Nathalie Sarraute. J'aime vraiment ce texte, ça me parle énormément. Je vous cite un peu ce qui me vient.
Et vous les lisez dans le texte, les Américains les...
J'essaye, quand j'ai pas trop la flemme, oui. j'essaye vraiment parce que je sais que parfois la traduction, même un très bon traducteur n'arrive pas forcément à donner 100% des émotions qui sont retranscrites par l'auteur dans sa propre langue. Mais j'avoue que je lis souvent les traductions quand même.
Oui. Est-ce que vous avez déjà lu du Carson McCullough ?
Oui.
D'accord.
J'aime beaucoup.
Ouais. Oui, ça se sent dans Méfiez-vous des enfants sages. Ouais. Les galeries de personnages nous fait pas mal penser à ceux inventés par Carson McCullough. Oui. Et un roman américain assez méconnu, mais alors peut-être vous l'aurez voulu. En tout cas, je le mentionne parce qu'il a été réédité récemment. Il s'appelle Les Rapaces de Frank Norris, qui se passe à San Francisco. Est-ce que vous l'avez
lu ? Non, je ne connais pas du tout, mais d'accord. Je note dans ma tête.
Ouais. Je ferai une liste, vous inquiétez pas.
Oui, je veux bien.
D'accord. Et alors, donc ça, c'est bon. En ce qui concerne les influences littéraires, vous nous avez fait un petit point. Et pour le reste,
après, quand je dis un roman ne se fait pas tout seul, c'est qu'avant que le roman soit publié, ou en tout cas soit entre vos mains, il faut bien voir, il y a déjà moi les gens qui m'ont soutenue, qui m'ont dit voilà, il faut pas arrêter, il faut continuer parce que tu racontes bien des histoires, ou on a envie de lire la suite. Donc il y a la famille, il y a l'entourage, il y a les gens qui relisent, et puis après ça il y a quand même toutes les personnes qui travaillent aux éditions Vianami, et que ce soit l'éditrice ou les quatre personnes qui travaillent avec elle. Qui ont recorrigé le livre, qui ont fait les corrections, qui ont donné leur avis, qui ont annoté le manuscrit. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que, une fois qu'on a terminé le roman, il y a plusieurs personnes qui vont donner leur avis, et c'est extrêmement important. Parce qu'en tant qu'auteur, c'est très difficile d'avoir assez de recul pour son roman, pour se rendre compte tout de suite de ce qui ne va pas, de certaines fautes dans les phrases ou certains temps de pause qui sont trop longs, par exemple. Et il y a eu vraiment un travail à plusieurs mains suite au premier jet, en fait. Et c'est pour ça que je dis qu'on n'est jamais tout seul quand on écrit un roman. Et après, évidemment, il y a aussi... une fois que ça s'est fait, il y a le travail au niveau de la presse, il y a le travail des représentants en librairie, le travail des libraires, qui est extrêmement important, évidemment. Donc un livre, il connaît plusieurs mariages différents, j'ai envie de dire. Voilà. Y a ceux qui écrivent, ceux qui lisent, ceux qui défendent, ceux qui corrigent. C'est pour ça qu'on peut, quand on lit un livre, on lit aussi le livre de ceux qui ont apporté leur touche personnelle au cours de l'élaboration.
Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur votre relation avec justement les éditions Vivien Ami ? Pourquoi cette maison d'édition ? Comment en êtes-vous arrivé là ?
Alors, pourquoi cette maison d'édition ? Je ne sais pas. En fait, ce n'est pas moi qui ai envoyé mon manuscrit là-bas. C'était une amie qui trouvait qu'il était bien, qui m'a dit « je pense que je connais une maison d'édition, enfin je connais, j'ai déjà lu des textes de cette maison et je pense que tu seras bien là-bas ». Donc moi, je ne connaissais pas les éditions Vivien Ami avant d'y être publiée. Mais ça s'est quand même très bien passé. Je me tourne vers mon attaché de presse qui est au fond. Non, ça se passe très très bien. Il y a beaucoup d'écoute, je pense, des deux côtés. Beaucoup de respect. Et puis, on rigole bien quand même. Donc, non, ça se passe très très bien.
Est-ce que vous en avez un autre en cours ?
Oh bah oui, quand même. Ouais.
Plusieurs ? Peut-être.
Non, j'ai un recueil de poésie en cours parce que ça m'intéresse et ouais. Un roman aussi.
D'accord. Donc, a priori, aussi aux éditions Vivien Ami ?
Toujours, ouais.
D'accord. Et alors, comment trouvez-vous le temps ? Parce que vous êtes encore étudiante
À Clermont-Ferrand.
À Clermont-Ferrand.
En master de lettres.
Master de lettres, d'accord. Voilà. Comment trouvez-vous le temps, je vais mettre, du coup, de faire tout ça ?
Déjà, j'écris généralement pendant mes vacances. Et j'ai tendance à aller assez vite, en fait. J'aime pas passer beaucoup de temps sur les choses. Ça s'appelle de la flemme, en fait. Hein. Et du coup, quand j'ai mon histoire, ça va assez vite. Ça prend un mois pour le premier jet. Après, évidemment, il y a tout le travail de recorrection derrière. Il ne faut pas oublier ça. Mais le premier jet, ça prend un mois et demi. Et ça, je fais ça pendant les vacances, quand je suis tranquille et un peu tous les jours. Et puis voilà, quoi.
C'est efficace, hein.
Mais après, c'est des romans qui sont assez courts, quand même. Enfin, c'est
oui,
pas...
oui, d'accord, mais quand même. Et quel est le regard soit de vos enseignants, vos professeurs, soit des autres étudiants ? Est-ce qu'ils savent déjà que vous êtes auteur ? Étudiante, il y a quand même une différence entre être écrivain et étudiante en fac de lettres et en fac d'ingénieur ou je sais pas quoi. Donc là, c'est quand même...
J'aurais du mal à répondre à cette question parce que, bon, évidemment, il y a mes amis qui le savent. Je cache pas non plus, c'est pas une honte d'écrire des livres, mais par contre, c'est pas quelque chose que je crie sur les toits, surtout en fac de lettres, parce que c'est quand même difficile d'arriver à la fac et d'avoir, on va dire, j'ai un statut différent. Mmh. Et puis, je fais la part des choses. Il y a des moments où voilà, je suis étudiante, je dois apprendre des choses, et là, toute la dimension, j'écris des livres, disparaît complètement. Donc le regard, il a pas changé, enfin rien n'a changé depuis que les livres sont sortis. J'ai plus d'encouragement, ça c'est sûr. Mais quand je suis à la fac, je suis quelqu'un qui est là pour faire des dissertations, quoi. Donc je pense pas au roman.
Ce serait assez marrant qu'une des épreuves que vous auriez à faire soit une analyse de texte ou.
Non mais j'aurais du mal en fait. J'aurais vraiment du mal, je pense.
Non, c'est sûr. Est-ce que vous souhaiteriez peut-être lire un passage ?
Oui, bien sûr.
Est-ce que vous avez...
Je vais sortir ma lorgnon. Elle séchait, brûlée par la chaleur, piétinée par la course incessante des élèves de troisième année qui tentaient, en vain, de battre le record du champion en titre depuis 4 ans, Alexandre Nicholson. À l'école, le garçon était devenu une véritable légende. Les filles parlaient de lui comme d'une voiture qu'elle ne pourrait jamais conduire, et les autres adolescents crevaient de jalousie quand ils le voyaient passer devant la grille au bras d'une demoiselle de 5 ans son aînée, jupe courte et chemise à fleurs. Thomas avait essayé de relever le défi. Pourtant, malgré ses muscles endurcis par le travail en forêt, malgré la sueur qui perlait sur son front telle une vague en suspens au-dessus d'une plage de sable blanc, il ne pouvait pas être plus rapide qu'Alexandre. La secrétaire avait même accroché une photo de lui dans le hall principal, le jour de sa victoire au tournoi régional. Tous les mômes connaissaient le sourire du vainqueur étalé sur 7 cm de papier blanc entre les annonces des professeurs particuliers et les résultats des examens de fin d'année. Ce type était une légende. Il en existe dans les écoles de chaque comté. Il n'y avait rien à faire pour le battre si ce n'était d'établir un nouveau record dans une autre discipline. Après la mort de William, Marie avait cherché du travail dans les villes voisines et le directeur s'était montré généreux en lui attribuant un nouveau poste. Ainsi, elle partait chaque matin après son fils, et quand celui-ci fut admis à la Gary Middle School, elle le conduisit tous les jours jusqu'à son bâtiment avant de repartir vers le sud à 10 km. Le soir, elle faisait le trajet en sens inverse, Thomas l'attendait au carrefour d'Alden, juste entre la route principale rénovée par les autorités locales et le magasin de jouets. L'été, un vendeur de glace se postait devant l'école et Thomas en réservait deux à la menthe. Sa mère dégustait la sienne au volant, son gobelet à la main, les yeux rivés sur la route. Il parlait peu. Thomas ne demandait rien, il restait près d'elle, semblable à un lièvre qui protège son terrier. Parfois, au moment des premières pluies, Marie faisait un détour par la vallée pour admirer les prés mouillés. De gros nuages gris qui ressemblaient à ces gigantesques colonnes de fer abandonnées dans les champs, moussées au-dessus des herbes. Des rongeurs fendaient l'air et couraient se cacher dans l'ombre des bois. Un après-midi d'avril, Thomas avait trouvé un renard mort dans le fossé juste devant la voiture. La vue du cadavre, à moitié dévoré, lui avait mis le cœur au bord des lèvres.
Merci. Alors, pour terminer, pour boucler la boucle avec le début de la conférence, est-ce que vous auriez des conseils à donner, des recommandations à faire aux futurs écrivains ou à tous ces, voilà, ces jeunes écrivains qui...
Le seul conseil, c'est de lire beaucoup avant d'écrire. Parce que plus on lit des histoires et plus on comprend comment... quels sont les différents moyens de les raconter, en fait. C'est vrai que généralement, en tout cas de plus en plus, les gens écrivent beaucoup, mais lisent moins que ce qu'ils écrivent. Et je pense que la première chose à faire, c'est d'essayer de comprendre, de donner une cohérence à ce qu'on écrit. Pour donner la cohérence, il faut aller chercher ailleurs pour voir comment les autres l'ont construite. Donc voilà, moi c'est le seul conseil que je peux donner. J'ai pas une expérience assez énorme pour dire faites ci, faites ça. Voilà, la seule chose c'est aimer lire et aimer écrire. Fait toujours aimer ce qu'on fait et le faire justement sans se mettre de pression, sans se dire j'ai absolument envie de publier ou je veux avoir des milliers et milliers de personnes qui me lisent. Il faut faire ça parce qu'on a envie de le faire et parce qu'on sait à peu près comment le faire.
Voilà, donc s'il y a de futurs écrivains dans la salle, vous savez quoi faire. Bon, eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous.